vienne, dans la prière de Jésus, que ton règne vienne, peut s'entendre sur deux points. Le règne que Dieu veut déjà établir dans nos cœurs, et puis le règne qui va venir. Hein? Un jour, nous serons avec le Seigneur, et la terre entière sera soumise donc à Jésus. Mais déjà maintenant, nous pouvons déjà voir qu'il est le roi, qu'il est assis à la droite du Père. Hein, et il est celui qui règne dans nos vies, dans nos cœurs, il règne sur l'Église. Alors, il y a le déjà, le pas encore. Et nous allons déjà parler du déjà du royaume de Dieu. Alors, peut-être, voilà. La place du royaume de Dieu, elle est totalement centrale dans l'enseignement de Jésus. Elle a une place prépondérante. Déjà avec Jean-Baptiste, hein. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et Jésus va redire cela dès que pratiquement Jean-Baptiste donne le relais à Jésus, quoi qu'il a encore continué un certain temps. Hein, Jean-Baptiste, avant de comprendre que voilà, c'était fini, il s'est retrouvé dans un cachot. Et puis, il a eu la tête coupée. Mais voilà, donc il y a un moment donné où Jean-Baptiste dit, il faut que je diminue et qu'il croisse. Hein, à un moment donné, il y a un arrêt pour son ministère, pour laisser place totalement sur la scène à Jésus. Hein. C'est Jésus qui doit prendre le grand format de l'écran, hein, je vais dire comme ça, et Jean-Baptiste doit diminuer. Et beaucoup de leaders actuellement prennent conscience de la puissance de transformation personnelle et sociale que représente l'Évangile. Tu vois, c'est vraiment important ce que je dis là, il faut bien écouter. Je pense que l'Évangile, jusqu'à un certain point, on l'a placé au niveau d'une sphère privée. Hein, c'est Dieu, il fait quelque chose dans ma vie, il fait quelque chose dans la communauté. Quand je suis là le dimanche, alors là, il y a quelque chose qui va se passer, mais en dehors de ça, c'est la société, c'est la vie, c'est les autres aspects de la vie. Et on prend conscience maintenant, de plus en plus, que le royaume de Dieu, c'est beaucoup plus que ça. Hein? Ils ont réalisé que la foi ne doit pas être cantonnée à la vie privée. Le royaume doit impacter la société. Et ça, c'est important. Le royaume de Dieu, il doit réellement impacter le royaume de la société générale. Et si on peut savoir ça aujourd'hui, c'est que le royaume de Dieu peut être manifesté partout où nous sommes, afin de rendre le message de l'Évangile et l'impact plus pertinent pour notre génération, pour les gens qui nous entourent. Le royaume de Dieu, ça va devenir quelque chose de terriblement percutant et pertinent, parce que nous allons faire une différence là où nous sommes. Nous sommes des sujets du royaume. Vous savez ça? Jésus est notre roi. Enfin, pour ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur et leur seigneur, ils sont devenus les sujets d'un royaume extraordinaire qui grandit, hein, qui grandit comme une semence qui devient un arbre. Et ça, c'est fabuleux. Alors, quel est le but du royaume de Dieu? C'est intéressant de réaliser, mais quel est le but de ce royaume que Jésus a établi? Bien, le royaume de Dieu est le projet éternel du Père. Le royaume, c'est Dieu qui vient pour détruire la tyrannie du diable sur l'individu, la communauté, les structures sociales, les nations et la création, en apportant la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Waouh, c'est formidable de savoir. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Hein. Et le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu qui ramène tout sous l'autorité du Fils, afin de remplir tout en tous. Dieu veut ramener les choses qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre sous l'autorité d'un seul chef, c'est Christ. Je crois que c'est vraiment important. C'est la manifestation, le royaume de Dieu, de la présence de Dieu dans toutes les sphères de la vie. Le royaume de Dieu se met en place quand des personnes converties, nées de nouveau et remplies du Saint-Esprit, se mettent à obéir et à mettre en pratique la parole de Dieu. Alors il y a quelque chose qui se passe. Forcément, le royaume de Dieu se situe au niveau de personnes qui sont déjà entrées dans le royaume de Dieu. Il ne suffit pas d'être assis sur une chaise dans une église pour faire partie du royaume de Dieu. Il ne suffit pas de connaître les doctrines de l'Évangile, de la parole de Dieu. Il ne suffit pas d'avoir tout comme un bon chrétien, mais il faut appartenir à Jésus-Christ, être une personne qui est passée par une réelle conversion. À partir de ce moment-là,
tout est possible. À partir de ce moment-là, il y a un monde nouveau qui s'ouvre à vous. Il y a un commencement, un recommencement, quelque chose de fabuleux qui est là comme possibilité. Éphésiens, chapitre 1, versets 9 et 10, dit ceci. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, du Roi, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Wow. Et Jésus, les paroles, on les connaît. Quand il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre », ça c'est le Roi. Hein, que ton règne vienne. Mais quand je dis que ton règne vienne, ce n'est pas simplement qu'il y ait la fin du monde et qu'on soit un jour avec le Seigneur parce que ça va mal ici. Mais que ton règne vienne, c'est viens régner, viens prendre ta place de roi dans ma vie, viens prendre ta place de roi dans l'Église, viens prendre ta place de roi dans la société et que la société puisse être, non pas infectée, mais impactée par l'Évangile et affectée d'une manière durable et positive par l'Évangile qui est en nous et qui devient alors une bonne nouvelle pour les autres. Comment a débuté le royaume de Dieu ? Le royaume de Dieu a été manifesté par la première venue de Jésus. Pendant son ministère terrestre, Jésus a annoncé le royaume de Dieu, il a enseigné les principes et le style de vie. Parce qu'il y a des principes, il faut connaître les principes du royaume de Dieu. Sinon, on ne va pas y arriver. Il faut connaître les principes du royaume de Dieu. Le royaume, il en a démontré la réalité par les guérisons, voilà, la guérison, les miracles et les délivrances. Donc il y a des signes du royaume. Le royaume est attesté par des signes visibles. Par la croix et la résurrection, Jésus a détruit l'autorité que le diable avait usurpée, exercée de manière destructrice et abusive sur la création. Jésus a formé et envoyé ses disciples pour qu'ils poursuivent et étendent son royaume. Donc, Dieu veut nous utiliser pour étendre le royaume de Dieu. Il a commencé quelque chose et maintenant il nous met à sa suite. Allez, vas-y. Il nous donne le bâton de relais, hein, comme les frères là, aux 400 mètres. Et hop, allez, tiens, hop. Et c'est un peu Jésus quand il est remonté au ciel, hop, il vous donne le bâton de relais. Bon, à toi de courir maintenant. Vas-y, tu as la puissance, tu as tout ce qu'il faut, tu y vas. Et Ésaïe 61, verset 1er, nous dit ceci, « L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Extraordinaire. Il a fait des guérisons, des choses extraordinaires. Les boiteux ont sauté, les muets parlaient, les sourds entendaient, les aveugles voyaient. Des choses extraordinaires, des choses merveilleuses. Les morts étaient ressuscités par la puissance de Dieu. Donc, il prêchait la parole, il enseignait cette parole. Et la parole de Dieu enseignée, prêchée, était attestée par les signes qui accompagnaient cette parole. Et c'est ce que les apôtres vont voir par la suite. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas Jésus, le super-héros, qui est venu un jour sur la terre. Mais vraiment, ce royaume a continué avec quand on lit ce que Pierre a fait, ce que l'apôtre Paul a fait, etc. Jusqu'à aujourd'hui, le royaume de Dieu continue à s'étendre avec des hommes et des femmes qui sont revêtus de l'Esprit pour accomplir les signes, les prodiges et miracles. Parce que Dieu est capable de le faire. Parce que c'est normal dans le royaume de Dieu. C'est quelque chose de normal. Pour nous, c'est quelque chose, c'est quelquefois devenu quelque chose d'abstrait ou quelque chose de pas concret ou de pas réaliste, d'irréel. Les miracles, tout ça, bon, ça c'est des choses, des exploits, hein, d'un super-héros nommé Jésus qui a fait ça il y a 2000 ans, et c'est toujours actuel aujourd'hui. D'accord ? Il ne faudrait pas diminuer la puissance de Dieu. Matthieu 4, verset 23, Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs diverses, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérit. De grandes foules le suivirent, de la Galilée à la Décapole, de la Décapole de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Donc partout où il était, il faisait du bien, il guérissait toute personne qui venait à lui, il délivrait des puissances des ténèbres ceux qui en avaient besoin, il libérait, il offrait le salut. Le salut était là. Il y a une révélation qui se passe quand l'esprit descend dans le cœur d'une personne, il est éclairé, il est illuminé, et il y a quelque chose qui se produit dans sa vie. Quand vous êtes passé des ténèbres à la lumière, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se produit. Un peu comme Paul, qui est sur le chemin de Damas, qui tombe par cette révélation du Dieu qui lui apparaît dans une grande lumière, qui l'éblouit, il tombe par terre, et il entend la voix de Jésus. Hein? Là, il y a vraiment un changement de vie, une transformation. Vous êtes là? Ça va? Ok. Matthieu 12, 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Le doigt de Dieu, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Par l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est le royaume. Hein? Il y a un esprit dans le royaume, l'Esprit Saint, évidemment. Hein? Il y a des esprits différents, mais l'Esprit Saint dans le royaume, alors, peut accomplir des œuvres extraordinaires. 1 Jean, chapitre 3, verset 8, et le but de Jésus, on le voit clairement, il est venu pour détruire les œuvres du diable, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu, pour détruire les œuvres du diable. Si on veut construire quelque chose, des fois, il faut abattre. Il faut détruire. Hein. Jérémie, il était venu pour détruire. Il a eu des paroles de destruction pour rebâtir, pour reconstruire, pour replanter. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a déversé une onction du Saint-Esprit de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Il y a deux royaumes, hein, le royaume des ténèbres, le royaume de Jésus. Il nous a transporté du royaume des ténèbres dans le royaume du Fils de Dieu, le Fils de son amour. Hein. Et là, c'est extraordinaire de réaliser que, voilà, nous sommes participants maintenant d'un royaume extraordinaire, le royaume du Fils de Dieu. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore goûté à cela, c'est possible. C'est quelque chose de tout à fait actuel. Et qui peut se réaliser à partir du moment où vous mettez votre foi en action en Jésus. Comment se manifeste la puissance du royaume de Dieu ? Intéressant cette question-là. Comment se manifeste le royaume de Dieu ? Le royaume de Dieu se manifeste aujourd'hui au travers de l'Église par la puissance du Saint-Esprit dans les nations. L'Esprit Saint est à l'œuvre dans les nations, hein, et pour convaincre de justice, hein, convaincre de péché, de justice, de jugement. Donc le Saint-Esprit est sans cesse en action, en activité. Jésus prie au ciel, l'Église prie, et l'Esprit parle au cœur et se révèle à plein de gens. Bien sûr, il faut aussi qu'il y ait des gens qui annoncent l'Évangile. Hein, Dieu n'utilise pas seulement ses anges pour que les gens soient sauvés. Il peut utiliser des songes, des rêves, etc. Mais il faut surtout des personnes qui prennent vraiment les sandales de l'Évangile à leurs pieds et qui vont trouver les gens pour leur annoncer l'Évangile. C'est ça le royaume de Dieu. C'est un royaume qui s'étend au travers de personnes comme vous et moi. C'est pas des grands faits qui se passent en Afrique, en Amérique ou en Asie ou je sais pas où et qui sont absentes chez nous. Mais Dieu veut travailler en nous et Dieu veut travailler au travers de nous. Le royaume de Dieu, c'est au travers de vous. Et je crois qu'il y a des principes pour ça. Le Saint-Esprit est la puissance du siècle à venir par laquelle nous sommes engendrés à la vie éternelle et sanctifiés. Hein? Engendrés à la vie, sanctifiés. Dieu veut faire mourir ce qui doit mourir en nous pour faire vivre ce qui doit vivre en nous. Et ce qui doit vivre en nous, c'est évidemment la personne de Jésus, ses sentiments, son caractère. Concrètement, les signes du royaume sont la proclamation de l'Évangile dans la puissance du Saint-Esprit associée à la guérison physique, la délivrance et la libération des captifs. C'est ça le royaume de Dieu. C'est l'annonce de l'Évangile, l'enseignement de la parole de Dieu, mais associé à des signes qui rendent réel ce royaume. Parce que c'est un royaume qui vient avec puissance. Il ne vient pas simplement avec des mots. Dieu veut nous équiper pour servir le dessein du Père dans les nations. Dieu veut nous équiper, nous donner l'équipement pour que ce royaume prenne place, effectivement. Acte 1, 8. « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Vous serez mes témoins. Et des témoins, ce n'est pas seulement des gens qui parlent, c'est bien sûr des gens qui parlent, mais qui témoignent par leur vie, qui témoignent par leurs actes, qui témoignent aussi de la même manière que Jésus a pu témoigner en faisant des miracles et des guérisons, en apportant la bénédiction là où ils étaient, en apportant la paix, en apportant la justice, en apportant l'amour, en apportant ce qui vient du Père, et y compris le miraculeux. Et je crois que c'est vraiment important. En Corinthiens 4, verset 20, « En effet, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » Ce n'est pas des paroles. Les paroles, c'est beau, mais nous avons besoin de voir la puissance de Dieu. Nous avons vraiment besoin de voir sa puissance. Matthieu 28, verset 19, « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Faites de toutes les nations des disciples. » Et donc, le royaume consiste à placer, je vais dire, l'évangile devant les gens de telle manière qu'ils puissent être éclairés. Et pas éclairés seulement intellectuellement, mais éclairés dans leur vécu, dans leur vie, qu'ils sachent que vraiment Jésus est le Christ, pas seulement avec la tête, mais avec le cœur, et qu'il puisse y avoir le miracle de la conversion qui prenne place dans la vie des gens. Alors, l'Église, quand elle est revêtue de l'autorité de la parole de Dieu et conduite par le Saint-Esprit, elle est là pour servir sa génération. Donc, l'Église est présente pour servir notre génération. Voilà à quoi doit servir l'Église. Alors, je voudrais dire que le royaume de Dieu, c'est un peu plus que l'Église. Ce serait un peu réducteur de dire le royaume de Dieu, c'est l'Église. Alors, l'Église, ça c'est sûr que ça fait partie du royaume de Dieu. Hein, mais il ne faudrait pas oublier Israël non plus. Hein. Donc, il y a deux peuples de Dieu. Il y a le peuple d'Israël et l'Église. Et Dieu veut réunir. Il a détruit d'ailleurs le mur d'inimitié qui séparait l'un de l'autre. Et Dieu veut réunir toutes choses sous son autorité. Alors, l'Église est appelée à faire connaître les principes du royaume de Dieu dans toutes les sphères de la vie humaine. Donc, les principes du royaume de Dieu, du règne de Dieu, doivent pouvoir être appliqués dans toutes les sphères de la vie humaine, privée ou publique. La vision du royaume est de considérer le monde présent comme notre champ de mission, à rechercher la manifestation de la présence et de la sagesse de Dieu dans tous les domaines, en travaillant à la justice et à la paix. Donc, nous pouvons vraiment croire, et c'est la réalité, que le royaume de Dieu veut l'étendre au travers de nos vies, y compris dans la société, pas seulement dans des réunions d'église. On pourrait dire, le royaume de Dieu, on va l'étendre avec beaucoup de réunions d'église. On va rassembler des gens dans l'église. Mais je peux vous dire que dans vos lieux associatifs, dans votre lieu de travail, vous pouvez amener le royaume de Dieu. Dans la rue, vous pouvez amener le royaume de Dieu. Hein, Francesco nous a parlé de plusieurs témoignages avec Jesus Revolution, que ce soit dans les Balkans, hein, et puis dans toutes les autres villes où vous êtes passé, en Espagne, en Italie, etc. Par exemple, quand tu es venu au mariage de Camille et Damien, eh bien, il y avait un travail. Tu ressentais de la part de Dieu qu'il y avait un travail. Donc, c'est vrai, il y a eu la cérémonie, on va dire la cérémonie religieuse, mais même en dehors de la cérémonie religieuse, Dieu travaille, Dieu opère. Et Dieu peut opérer à nos lieux de travail par rapport aux gens qui nous entourent. Dieu peut opérer quand je suis dans la rue, je croise des gens sur un trottoir. Ma prière a une grande efficacité, vous le savez, hein. Notre prière a une grande efficacité. Quand nous sommes en voiture, nous pouvons voir les gens, ce qui nous entoure. Bien sûr, on est concentré sur ce que nous devons. Mais nous sommes là des membres du royaume de Dieu. Et partout où nous sommes, hein, comme Dieu dit à Josué, la plante, là où tu mets la plante de ton pied, c'est un endroit qui t'appartient. Hein? À chaque pas que tu fais, c'est chez toi. D'accord? Et tu vas étendre le royaume de Dieu de cette manière-là. Tu vas prendre possession. Prenez possession de la vie que Dieu vous a donnée. Hein? Il y a des gens qui se restreignent. J'ai vu il n'y a pas longtemps, on était dans un bateau avec tes parents. Et sur le halage, il y avait deux hommes qui faisaient un travail. Et je me dis, peut-être qu'ils sont tous les jours là, à cet endroit. On peut ne pas réaliser que le royaume de Dieu, nous pouvons faire grandir, que nous sommes participants du royaume de Dieu. On peut avoir ça dans la tête sans avoir compris réellement. Ce que je veux dire ici, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire que si je vais en Floride, la Floride m'appartient. Ça veut dire, je vais en Afrique, l'Afrique m'appartient. Etc., etc. J'annonce l'évangile là où je suis. Je n'ai pas besoin de longer le mur parce que je suis honteux d'être un chrétien né de nouveau dans un pays où il n'y en a pas beaucoup. On va dire comme ça, en gros. Hein. Je peux être vraiment quelqu'un qui va impacter ma génération. Mais il faut le croire, il faut le savoir. C'est lamentable de s'ignorer, d'ignorer qui nous sommes dans le royaume de Dieu. C'est vraiment très pauvre. Il y a une pauvreté de l'Église qui s'ignore. Elle ne sait pas à qui elle appartient. Elle ne sait pas son identité. Et ne connaissant pas son identité, elle ne connaît pas non plus la puissance du royaume de Dieu. Et si on ne connaissait pas la puissance de Dieu, bien souvent on ne connaît pas les principes du royaume de Dieu. Comment le gouvernement de Dieu fonctionne? Si on ne connaît pas le fonctionnement du royaume de Dieu, on est en décalage par rapport à ce que Dieu veut. Mais si on n'est pas né de nouveau, on n'appartient même pas au royaume de Dieu. On peut avoir des bonnes conceptions intellectuelles, mais ça ne va pas aider à impacter le monde. Donc, il n'y a rien à faire. Il faut y déjà entrer soi-même. Il faut appartenir au royaume de Dieu. C'est une première chose. Et puis, réaliser qui nous sommes, notre identité et la puissance qui accompagne ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu, qui sont d'abord, bien sûr, baptisés du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit. Je crois qu'on a besoin de réaliser l'importance d'être rempli du Saint-Esprit. Il y en a qui disent, oh, ça, c'est pas grave, j'aime Jésus, c'est bon. Mais j'ai besoin non seulement d'aimer Jésus, mais d'être rempli du Saint-Esprit. Si je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, je ne pourrais pas faire grand-chose. D'ailleurs, être témoin sans être rempli du Saint-Esprit, c'est vraiment, je pense, utopique. On va annoncer un peu comme les témoins de Jéhovah. Hein? On va aller de maison en maison par devoir, et il n'y aura pas de résultat pour l'éternité. Hein, c'est du résultat humain. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'il y ait du divin qui se passe avec nos vies. C'est du divin. Que quand nous annonçons l'évangile, il puisse se passer quelque chose. Si nous sommes dans le véritable, alors vous et moi pouvons accomplir de grandes choses par la puissance de Dieu. Il peut y avoir des miracles au travers de nos prières, des guérisons. Je ne vois pas pourquoi Francesco prie, il y a des guérisons, et que vous priez et qu'il n'y aurait pas de guérison. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas utiliser? Vous voyez, Francesco a compris cela, d'autres ont compris. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas tous entrer dans ce plan-là? On peut tous entrer dans ce plan-là, il faut simplement comprendre que Dieu peut nous utiliser dans son royaume pour accomplir des grandes choses. Et il n'y a rien qui soit impossible. Ce qui diminue l'impact qu'on peut avoir, c'est notre petite foi. Vous savez, là, oui, mais je ne pense pas que Dieu pourrait faire ça avec moi. Voilà, c'est une pensée d'incrédulité, tout simplement. De doute, je ne suis rien du tout, les autres sont mieux. Et ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Rien à voir. C'est nier notre identité. Nous n'avons pas à nier qui nous sommes. Si nous réalisons qui nous sommes, nous n'allons plus être comme un ouvrier qui est dans un halage, qui va faire ça toute sa vie jusqu'à sa mort, mais nous allons peut-être partir en voyage, nous allons peut-être découvrir que finalement la terre est à nous. Hé, les gars, la terre est à nous et je peux avoir un impact sur la terre entière. C'est possible ou pas? Je suis fou? Non, je pense pas que je suis fou, mais ça pourrait y ressembler, attention, hein. Ça pourrait y ressembler, fameusement, mais Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Si j'obéis à Dieu, si je fais sa volonté, et je ne me prends pas pour qui je ne suis pas, mais je fais simplement ce que Dieu me demande de faire, pas en imitation de quelqu'un dont j'ai vu l'article sur un livre, un magazine ou quoi que ce soit, mais je vais être moi-même, en étant soi-même, en faisant ce que Dieu me demande de faire et d'accomplir, en étant ce pourquoi j'ai été créé, dans les mains de Dieu, dans les mains du potier, qui fait ce qu'il veut avec moi. Il va y avoir des choses extraordinaires. Certains le réalisent et il se passe des miracles. Voilà, parce que la foi est en train de grandir chez eux ou de galoper en avant et la parole de Dieu est réelle. Il n'y a rien à faire. La parole de Dieu est réelle. Et si je ne veux pas la vivre, ben je ne la vivrai pas. D'accord ? Dieu ne nous forcera pas. Si vous voulez simplement vivre votre vie humainement, comme si vous n'aviez pas reçu Jésus, mais tout en croyant en Jésus, ben vous pouvez le faire. Il n'y aura rien qui se produira. Vous viendrez à l'église tous les dimanches, mais vous ne comptez pas sur Dieu pour qu'il se passe des grandes choses. D'ailleurs, vous n'y croyez peut-être pas. Mais si vous y croyez, alors il va se produire des choses extraordinaires. Ce n'est pas seulement un témoin de langage, mais un témoin d'action que vous allez devenir. Et ça, c'est fabuleux. Votre foi va commencer à faire des choses que vous n'auriez jamais faites. Jamais faites. Vous allez commencer à parler avec une autorité que vous n'aviez pas. Hein? Et quand vous allez parler, vous allez dire, est-ce que c'est moi qui parle comme ça? C'est pas moi. Si? Par la foi, il y a des choses qui vont se produire. Et, voilà, c'est des grands. Il y a des grands principes pour cela. Alors, chacun est appelé à développer le potentiel que Dieu lui a donné, à faire fructifier tous ses talents, qu'ils soient intellectuels, artistiques, spirituels ou de quelque autre nature, pour la gloire de Dieu et la bénédiction de la communauté et d'un monde qui est censé pouvoir devenir croyant. C'est extraordinaire. Dieu va utiliser tous les dons que nous avons, même artistiques. L'art. Moi, j'aime bien l'art. Si vous aimez l'art, on va utiliser davantage l'art. Parce que Dieu peut utiliser l'art pour parler au cœur des gens. Ça peut être ça, ça peut être intellectuel. Si vous êtes capable d'écrire un livre, tu prends un bouquin blanc et tu commences à le remplir. Hein, c'est terrible la feuille blanche, mais bon, il faut commencer par quelque chose. Et spirituellement, peut-être l'un ou l'autre est appelé à devenir un prédicateur. Peut-être pas, parce que pas tous. Tout le monde ne sera pas prédicateur. Hein. Mais tout le monde est appelé à être témoin. Ça, tout le monde est appelé à témoigner autour de lui. Hein. Marc 10, verset 45. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Le but dans le royaume de Dieu, c'est qu'on puisse se mettre au service du Seigneur. Ce n'est pas qu'on soit des gens qui reçoivent. C'est des gens qui donnent. Voilà ce que Dieu est intéressé par des gens qui sont au service des autres. Pas seulement qui sont là pour se servir. Et parce que c'est l'exemple, c'est Jésus. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et le royaume de Dieu, c'est Dieu qui utilise des gens qui se mettent au service de Dieu. Dieu ne force personne. Et donc, c'est une liberté, mais c'est comme ça que ça marche. Romains 14, verset 17. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Nous sommes dans sa justice. En accomplissant ce que Dieu nous demande dans son royaume, nous sommes nous demeurons dans sa justice. Nous visons la justice du Seigneur. Et bien sûr, les résultats, c'est la paix et finalement la joie par le Saint-Esprit. Alors, dans quelle sphère le royaume s'exerce-t-il? Dans quelle sphère? Comment ça peut s'exercer, le royaume? La vision du royaume de Dieu nous engage à vivre pleinement notre double citoyenneté. Nous avons deux citoyennetés. Hein? Nous ne sommes pas des anthropologues qui étudient sans cesse nos racines, d'où on vient, etc. Hein? Bien sûr, nous sommes des gens d'ici. Hein? J'aime bien le drapeau belge avec le diable rouge, etc. Mais bon, notre citoyenneté, c'est vrai, elle est Belgique ou n'importe quel autre pays, au Guatemala ou n'importe quel, la Roumanie, etc., des beaux pays, magnifiques. Mais finalement, nous sommes des concitoyens, des citoyens du ciel. Voilà, nous faisons partie de la cité céleste. Et donc, nous avons une double citoyenneté. Nous sommes du ciel, nous sommes de la terre en même temps. Et ça, c'est important de le réaliser. Et la double citoyenneté céleste et terrestre doivent être en harmonie. Comprenez ça? La citoyenneté humaine et céleste, la citoyenneté de la terre et la citoyenneté du ciel doivent vivre en harmonie. Nous sommes citoyens du ciel et de la terre, que ce soit dans nos engagements familiaux, d'église, professionnels, associatifs ou politiques. C'est pour ça que le royaume de Dieu peut aller dans toutes les sphères de notre vie. Alors, j'aimerais peut-être qu'on étudie un aspect, un principe. On ne va pas aller trop loin, parce que si on veut étudier tous les principes du royaume de Dieu, on est encore là-demain. Donc, voilà, j'en ai choisi un, au moins un, qu'on pourrait retenir aujourd'hui. On en verra d'autres à d'autres occasions. En tout cas, un aujourd'hui, et c'est l'humilité. L'humilité. Ça, c'est un grand principe du royaume de Dieu, l'humilité. Et Zacharie, chapitre 9, verset 9, dit ceci dans l'Ancien Testament. « Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Et ce verset parle de Jésus. Jésus qui est venu sur la terre et il était humble. Il est doux et humble de cœur, humble. Et Jésus nous demande de prendre exemple sur lui pour lui ressembler. Comme il est le roi et que nous sommes ses sujets, les sujets vont appliquer ce que nous voyons au roi. Et le roi est humble. Pas toujours comme les rois de la terre, qui ne sont pas toujours forcément humbles. Hein, les rois anciennement, c'était des tyrans. Hein. J'aimerais bien de rappeler ça. Il y a eu beaucoup de tyrans sur la terre. Hein, des gens qui étaient dominés et des gens qui étaient au-dessus de tout le monde. Mais Jésus, il a montré un autre exemple. Il a montré un service. Et le service, c'est un service d'amour. Quand il lave les pieds de ses disciples dans Jean 13, Pierre ne veut pas, mais Jésus lui dit, si tu ne veux pas, tu n'as aucune part dans mon royaume. Alors, donc, Jésus montre l'exemple en lavant les pieds de ses disciples et il met le comble à son amour. Et voilà, c'est un amour de service. C'est un service dans l'amour, dans l'amour. Alors, Jean-Baptiste, comme je le disais tantôt, il disait qu'il faut que je diminue et qu'il croisse. Hein, c'est important. Donc, et savoir connaître notre place. Quand quelqu'un veut occuper la place de quelqu'un d'autre, ça ne marche pas. Jean-Baptiste, je pense qu'il est resté un peu trop longtemps. Puis, pour finir, ça s'est mal passé pour lui. Hein, on pourrait voir ça en détail, mais bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. Il faudrait trop de temps pour étudier un petit peu la manière de vivre de Jean-Baptiste jusqu'au bout, et ce serait intéressant. Hein. En tout cas, il avait vraiment quelque chose de la part de Dieu. Il faut que je diminue pour qu'il croisse. Hein. Même si la mise en pratique de cela était difficile pour Jean-Baptiste, il faut que je diminue pour qu'il croisse. Et eh bien, c'est pareil avec nous. Il faut que nous diminuions pour laisser plus de place au Seigneur. C'est un acte volontaire de laisser Jésus être le roi de notre vie et que nous puissions diminuer. Hein. Nous avons, avant notre conversion, qui était le roi dans notre vie? Hein, ne mentons pas à nous-mêmes. C'était nous. Nous étions le roi de lait, et bien établi sur notre cœur et notre façon de vivre, nos pensées, etc. On agissait d'une manière ou d'une autre, psychologiquement ou pas, mais en tout cas, nous étions des petits rois, d'une certaine manière. Et il a fallu qu'on se retire de cette place, à un moment donné, pour ceux qui ont compris, ils ont laissé la place à Jésus. Mais attention, hein, parce que le naturel, il ne s'en va pas facilement, il revient facilement au galop, hein, comme dirait l'autre. Hein. Donc, tous les jours, nous avons à mourir à nous-mêmes, ou sinon, ça revient, la chair revient, et redevient le numéro un dans notre vie. Hein, la direction, les rênes de notre vie doivent être donné à Jésus. C'est lui qui doit grandir en nous et nous devons diminuer pour lui laisser la place. Alors, la parole de Dieu, elle est claire, hein, et c'est vraiment un principe, il faut s'abaisser pour être élevé. Celui qui s'abaisse sera élevé, celui qui s'élève sera abaissé. Voilà, c'est un principe de la parole de Dieu. Tu veux t'élever, tu seras abaissé. Tu veux t'abaisser, tu seras élevé. C'est un principe. Et on ne sait rien y faire. C'est un principe qui est dans la parole de Dieu. C'est un principe qui est clair. Et l'humilité précède la gloire, bien sûr. Alors, donc, dans notre vie, nous ne devons pas rechercher notre gloire, hein, mais celle de Dieu en toutes choses. La gloire de Dieu doit être recherchée et non la nôtre. Voilà, celui qui est humble dans son identité accomplit ce pourquoi nous avons été créés. J'accepte d'être moi et pas un autre. J'accepte de ne jamais me comparer. Si je commence à me comparer avec les autres, c'est pas bon. Soit je vais me trouver formidable par rapport aux autres, soit je vais me trouver petit par rapport aux autres. Et Dieu ne veut pas qu'on puisse se comparer. C'est pas dans la société, nous sommes dans la concurrence, d'accord? Nous sommes dans une société très concurrentielle. Mais dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de concurrence, ça n'existe pas. Je crois que c'est important. J'arrête de me plaindre aussi. J'entre, parce que quand je me plains, j'ai des regards sur moi. Et je dois avoir les regards sur le Seigneur. J'entre dans ma destinée. Dieu a une destinée pour nous, être humble. C'est aussi de dire, bon, ça va. Je ne vais pas me battre contre Dieu, mais je vais accepter ce qu'il a pour moi. Je vais accepter. C'est vraiment, je lâche prise et j'accepte d'entrer dans ma destinée. Et ça, c'est important. Pas la destinée de quelqu'un d'autre, mais ma destinée. Matthieu 18, versets 1 à 5. Et là, ça nous parle d'humilité. Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. » Celui qui veut être grand, et c'est pas comme ça, en tout cas, qu'on entre dans le royaume de Dieu. Hein. Il faut se faire comme un enfant. Il appelle un enfant, le place au milieu des disciples, et il leur parle d'une chose, c'est qu'il faut d'abord se convertir. Voilà. Si vous ne vous convertissez... En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez, si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donc, devenir comme un petit-enfant, ça veut dire être humble, d'accord? Et si vous ne vous convertissez pas, ça veut dire que beaucoup de gens veulent avoir des places d'honneur dans l'Église ou dans le monde. Tout le monde recherche bien souvent ces choses-là. Et le Seigneur dit... Il faut d'abord entrer dans le royaume des cieux. Hein? Dans l'Église, il ne faut pas essayer d'être grand, mais il faut entrer dans le royaume des cieux. Il faut se convertir. C'est la première chose. Si on ne se convertit pas, il n'y aura rien qui suivra. Alors, j'aimerais bien de prendre comme exemple Pierre. Pierre, il a été enseigné par Jésus pendant 3 ans. 3 ans d'enseignement. Il a vu comme Jésus vivait. Et le jeudi, alors qu'il allait être livré le vendredi, donc, il dit à Pierre, Jésus dit à Pierre, quand toi tu seras converti, alors tu affermiras tes frères. Quand toi tu seras converti. Donc, il a vu les miracles de Jésus. Il a été avec Jésus pendant 3 ans. Ils ont fait des choses extraordinaires avec Jésus. D'accord? Et Jésus lui dit, quand tu seras converti. Il avait abandonné, il y a longtemps, il avait abandonné les filets de son père, etc. Il avait tout abandonné pour suivre le Seigneur. Il était à plein temps pour suivre le Seigneur. Et Jésus lui dit 3 ans après, quand tu seras converti,
Ah, c'est terrible. Quelle baffe. Tu n'es pas encore converti alors. Hein, non. Il n'était pas encore converti, notre Pierre. Hein? Et donc, il faut attendre vraiment le jour de la Pentecôte pour qu'il se passe une transformation dans la vie de Pierre. Hein? Quand ils sont à 120 à la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, ils ont connu véritablement la conversion. Et Pierre a été converti ce jour-là. Vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé, déjà à partir de Jean 20, bien sûr, mais lors de la Pentecôte, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Pierre n'était plus le même. Il va parler avec la puissance du Saint-Esprit et 3000 âmes vont se convertir. Et une des caractéristiques de la conversion, c'est qu'on est sensible à la parole de Dieu. On est sensible à tout ce qui touche les choses de Dieu. Quand on n'est pas converti, on n'est pas sensible à ça. On peut très bien se passer de lire la Bible pendant une semaine, venir une fois à l'église toutes les semaines, c'est bon comme ça, c'est déjà pas mal. Mais quand on est converti, on a besoin de la parole de Dieu, on a faim et soif. Donc ce qui caractérise en fait ceux qui sont convertis réellement, c'est qu'ils ont faim et soif de la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas s'empêcher de prier, ils ne peuvent pas s'empêcher de lire la parole, c'est très important pour eux. C'est très très important. Si on peut se passer de prier et de lire la parole de Dieu, je mets en doute la véritable conversion. Parce que là, il y a quand même un truc qui ne fonctionne pas bien. Parce qu'une conversion réelle nous apporte une faim et une soif des choses de Dieu, une faim et une soif du royaume de Dieu, une faim et une soif d'être en communion avec le Seigneur, une faim et une soif de témoigner, d'aller parler jusqu'au bout de la terre que le Seigneur est merveilleux. Non ? Ou alors, il doit seulement se passer des choses extraordinaires à un moment donné, et puis et on va de choses extraordinaires en choses extraordinaires, et s'il n'y en a que deux dans notre vie, on ne va pas faire grand-chose. Hein. Non, mais je crois que si on recherche Dieu, c'est parce qu'on a un amour, un feu que personne ne pourra éteindre. Le feu que Dieu met en nous, c'est un feu que personne ne pourra éteindre. Et ça, c'est extraordinaire. Si vous n'avez pas ce feu-là, il faut le rechercher. Il faut le chercher, il faut venir devant le Seigneur. Moi, je veux ce feu-là, je veux qu'il y ait un feu qui brûle en moi, je veux me donner à toi, je veux que ma vie ne soit plus jamais la même. Je veux être participant de ton royaume, et déjà avoir tous les effets de ton royaume, mais manifester aussi ton royaume à l'extérieur pour que d'autres viennent à la foi. Ça, c'est la caractéristique de personnes qui ont reçu. Alors, pour être le plus grand dans le royaume de Dieu, il faut être humble. C'est quoi l'humilité ? C'est un sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer son orgueil. C'est un sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer son orgueil. Donc on se sent insuffisant, on a besoin du Seigneur, on réalise qui nous sommes. On n'a pas une trop haute estime de nous-mêmes. Et on réalise bien qu'il y a des points d'orgueil dans notre vie, dans la manière de réagir par exemple, des paroles qui sont dites comme ça. Puis on dit, oh là, pourquoi est-ce que j'ai dit ça? C'est de l'orgueil. Et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ma prière, Seigneur, délivre-moi de l'orgueil, ça va marcher? Je dois prendre autorité sur l'orgueil. Je dois prendre autorité dans ma vie. C'est à moi de faire le boulot aussi. Et par rapport à ça, à repousser, à réprimer l'orgueil dans les actions, dans les paroles, à découvrir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, la deuxième définition de l'humilité, c'est celui qui s'abaisse volontiers, par modestie ou par déférence, celui qui est effacé et qui devient modeste. Et donc, c'est un acte volontaire. L'humilité, c'est un acte volontaire. Ce n'est pas seulement quelque chose qui va me tomber dessus à un moment donné, mais c'est quelque chose où je suis participant. Je dois participer à cette humilité, je dois aller vers. Être grand, c'est devenir serviteur. C'est ça l'humilité, parce que les disciples se demandaient qui était le plus grand. Ils voulaient savoir qui était le plus grand. Ils auraient voulu être le plus grand dans le royaume, etc., le royaume de Dieu. voilà, la grandeur, et c'est quoi être grand, c'est intéressant, ça m'intéresse, j'aimerais bien être grand, et peut-être plus grand peut-être, etc. C'est des choses un peu qui peuvent paraître malsaines, ou peut-être qui sont bien, parce que certains veulent des postes. Hein. D'ailleurs, la parole de Dieu, elle dit que celui qui aspire au ministère d'ancien, d'évêque, etc., c'est une bonne chose d'aspirer. On ne peut pas toujours aspirer à être plus petit, ou à ne rien faire. Ou... Non, on va aspirer à des belles choses, des choses nobles, des choses qui talentueuses, des choses qui honorent Dieu, parce que Dieu honore ceux qui l'honorent. Oui. Et si nous avons des bonnes choses, des bonnes raisons pour honorer Dieu, c'est honorable. Et je crois que Dieu n'est pas là pour nous casser, pour nous diminuer, dire « assieds-toi, fais rien ». Non, Dieu nous élève justement, il nous relève, il nous... c'est lui qui va nous élever. Mais d'abord, nous avons une attitude humble. Ça, c'est la première chose. Et puis Dieu va nous utiliser avec les dons que nous avons reçus. Dans l'humilité, mais voilà, ce que nous sommes, nous le sommes. Ce que nous ne le sommes pas, nous ne le sommes pas. Hein. On ne va pas se prendre pour qui on n'est pas, mais ce que nous sommes, hein, d'ailleurs l'apôtre Paul le dit, je suis qui je suis par la grâce de Dieu. Ben, ce que je suis, je ne vais pas dire que ce n'est pas faux. Hein, c'est comme Jésus, on lui dit, est-ce que tu es le fils de Dieu? Dis-tu que oui, je le suis. Ben, il ne va pas dire, non, je ne le suis pas, je vais être humble. Non, il dit, voilà, mais je le suis, mais bien sûr, je le suis. Et donc, ce que nous le sommes. Et ça, c'est important. Donc, être le plus grand, Jésus va leur dire, si vous voulez être plus grand, soyez les serviteurs des autres. Soyez au service de votre prochain. Soyez celui qui lave les pieds de l'autre. Je crois que c'est important. Matthieu 23, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Verset 11. Quiconque s'élèvera sera abaissé, quiconque s'abaissera sera élevé. Je crois que l'humilité, c'est important. Être qui nous sommes pour ce que Dieu veut que nous soyons. Vraiment. Et Dieu a de bons plans. Hein. Ce n'est pas le plan des hommes, ceux qui ont dit des choses négatives sur nous, qui va s'exécuter. D'accord. Ce n'est pas les idées utopiques que nous avons peut-être sur nous-mêmes, parce que des fois, on pourrait croire qu'on va devenir Premier ministre et on ne sera peut-être jamais, etc. Enfin, des bêtises. Ça peut ne pas être des bêtises, mais quelquefois, c'est exagéré. Il y a des fois des rêves qui ne sont pas des réalités, qui ne le deviendront jamais. Mais il y a des rêves qui deviendront des réalités quand ça vient de Dieu, bien sûr, comme Joseph. Alors, je voudrais bien vous raconter une histoire sur trois arbres. Et trois arbres qui avaient une haute idée de qui ils étaient. C'est intéressant. Il était une fois trois arbres qui rêvaient de ce qu'ils seraient une fois devenus grands. Le premier s'imaginait être un coffre à trésors, renfermant ce qu'il y a de plus précieux au monde. Le deuxième rêvait d'être un vaisseau grandiose, faisant traverser les océans au plus grand roi de la terre. Le troisième se voyait grandir et dépasser la cime des plus grands arbres. Tout le monde alors le regarderait avec respect. Le jour arriva où trois bûcherons vinrent couper les arbres. Hélas, le rêve fut vite évanoui lorsque le premier fut transformé en une auge grossière pour animaux, le deuxième en une vilaine barque de pêcheurs et le troisième débité en grosse poutre imparfaite. Et les jours passèrent et avec eux les souvenirs de gloire. Un beau jour, une maman au visage rayonnant se pencha au-dessus de la mangeoire pour y déposer un enfant nouveau-né. À cet instant, le premier arbre sut que son rêve s'était accompli et qu'il ne trouverait pas au monde de trésor plus précieux que celui qu'il accueillait aujourd'hui. Beaucoup plus tard, un homme monta dans la barque. Au milieu de la mer, alors que les vents s'étaient levés, l'homme se mit debout et d'un geste de la main apaisa la tempête. Alors le deuxième arbre sut qu'il ne pourrait transporter à travers les mers de rois plus puissants et plus grands. Enfin, encore plus tard, des soldats vinrent ramasser les poutres pour en faire une grande croix sur laquelle on vint clouer les mains d'un homme. Le troisième arbre ne comprit pas tout de suite ce qui se passait, mais le dimanche matin, à la lueur de l'aube, il comprit que pour lui aussi, le rêve s'était accompli. Désormais, en tout endroit du monde,
les hommes le regarderaient avec les yeux remplis d'espérance.
Extraordinaire, ces trois arbres, hein, qui avaient des hautes idées d'eux-mêmes, qui étaient déçus parce que voilà, ça ne s'est pas passé tout à fait comme ils voulaient. Mais finalement, waouh. Et c'est ça que Dieu va faire. Ce ne sera peut-être pas le rêve humain que vous avez escompté, accomplir ou être, mais après vous direz, oh, waouh. Et les autres diront, waouh. Extraordinaire, waouh. C'est ça alors que Dieu voulait faire avec cette personne. Et c'est ça que Dieu voulait faire avec moi. Waouh. Extraordinaire. Donc, vraiment, puissions-nous accueillir ce que Dieu veut faire avec nous. Il veut nous utiliser pour faire grandir son royaume. Si tu te rends humble comme un enfant, si nous nous rendons humbles comme des enfants, Dieu le fera. Si tu acceptes de le servir pour sa gloire. Alors, nous allons demander au Seigneur de nous faire de nous des serviteurs, des gens qui ont la capacité de réprimer l'orgueil et de se mettre à genoux devant Dieu et aussi devant les autres pour leur laver les pieds. Que le Seigneur nous rende vraiment agréable devant lui et nous introduise dans le processus de devenir humble. Nous allons faire maintenant. Seigneur Père, nous te prions vraiment, Seigneur, de bénir ta parole, Seigneur, que ta parole puisse nous remplir, Seigneur, nous remplir et nous aider, Seigneur, à participer à ton royaume. Tu veux faire de grandes choses, de belles choses dans nos vies. Et nous comprenons qu'il y a un des principes que nous avons vu aujourd'hui, être humble. Seigneur, donne-nous d'être humble, d'être comme des enfants dans ton royaume, d'être utilisé par ta puissance. Donne-nous, Seigneur, de manifester ta gloire là où nous nous trouvons, dans notre travail, à la maison, que ce soit pour accomplir ta gloire, Seigneur. Quand nous prions pour quelqu'un de notre famille ou quelqu'un de l'Église, quelqu'un qui est au dehors, n'importe où, nous puissions voir la gloire de ton nom. Merci Seigneur, tu veux nous aider à voir qu'est-ce que nous pouvons faire dans le monde, Seigneur. Oh Jésus, montre-nous, Seigneur, montre-nous parce que tu as un plan parfait, un plan excellent. Tu as quelque chose de parfait pour nous, Seigneur. Tu veux nous aider à marcher selon l'identité que nous avons, selon qui nous sommes. Seigneur, merci Jésus. Merci Père. Merci Jésus. Merci Seigneur, parce que nous sommes des fils et des filles du roi qui avons la puissance pour accomplir de grandes choses sur cette terre. Aide-nous, Seigneur, à l'accomplir modestement, avec la sagesse de Dieu. Donne-nous de voir qu'est-ce que nous pouvons faire en gardant un enfant, en faisant la vaisselle, en pratiquant des choses banales, mais que ce soit ton royaume qui vienne au travers de nos vies, Seigneur. Nous voulons être participants de ton règne. Nous voulons servir les autres comme si nous te servions toi, comme si tu étais devant nous. Merci Jésus. Nous voulons avoir la conception du royaume, la réalité du royaume en face de nous et devenir des serviteurs de notre roi à tout moment, à tout instant, à tout endroit. Donne-nous, Seigneur, de faire grandir ton royaume partout où nous sommes. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.